Ça y est, c'est l'épisode dont je vous parle depuis genre 1000 ans. On en est enfin là, et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe en placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors aujourd'hui, on va enfin parler de la réécriture de Barbe Bleue par Angela Carter, cette réécriture qui s'appelle Le cabinet sanglant. Déjà, avant de commencer, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais qui me semble nécessaire avec Angela Carter. C'est une sorte d'avertissement, trigger warning, diraient les Anglais, enfin, les Anglo-Saxons. Ce conte, c'est un conte qui est très violent. On parle de viol, on parle de violence et d'abus, que ce soit en termes d'abus mental ou physique. Donc si ce sont des sujets qui sont difficiles pour vous, n'écoutez pas cet épisode. Voilà. Et sinon, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous parler de l'autrice avant ensuite de vous faire un résumé du conte. Et puis enfin, on parlera des personnages, des thèmes et des symboles. Parlons d'Angela Carter. Angela Carter, c'est une autrice britannique qui est née en 1940 et qui est décédée en 1992 d'un cancer. Elle est donc journaliste, essayiste et aussi autrice de fiction. Elle est notamment connue pour sa fiction. C'est la reine de la réécriture et de la réappropriation féministe, bien qu'elle se détache complètement du mouvement féministe de l'époque. Marina Warner dira même sur elle qu'elle est beaucoup plus indépendante et beaucoup plus en avance sur son temps que les féministes de son époque. Elle écrit donc de la fiction, je pense notamment à son roman The Passion of New Eve, ou encore à son recueil de nouvelles Black Venus, qui est une réécriture de la Vénus noire de Baudelaire, mais aussi à des essais beaucoup plus pragmatiques, comme The Sadean Woman, qui est un essai féministe sur la manière dont les femmes peuvent parfois être complaisantes par rapport aux situations qu'on leur impose. C'est un très très gros résumé, c'est très intéressant. Bien évidemment, son texte le plus important, c'est le texte que nous allons voir. Alors le plus important, c'est sûrement mal formulé, en tout cas le plus connu, c'est celui que nous allons voir. C'est son recueil de nouvelles, qui s'appelle dans sa version originale The Bloody Chamber, donc il prend le titre d'une des nouvelles que nous allons étudier, puisque nous allons étudier celle-ci précisément, donc qui est Le cabinet sanglant, et qui a été publiée en 1979, mais en France, on a décidé d'axer le recueil sur un autre conte, puisque en France, la traduction a décidé de prendre La Compagnie des loups, réécriture du Petit Chaperon rouge, comme texte phare du recueil. On voit ici le côté culturel, et puis il fallait aussi pouvoir vendre ce recueil à un plus grand nombre de personnes, et l'idée de cabinet sanglant ancrait un peu trop pour les Français le genre dans du gothique, sombre, voire violent. C'est le cas de tout le recueil, hein. The Bloody Chamber, c'est vraiment, vraiment pas le conte le plus difficile. À mon sens, le plus difficile, c'est The Snow Child, c'est-à-dire la réécriture de Blanche-Neige. Il fait 2 pages, il est traumatisant à vie, mais ô combien nécessaire. Bref, voilà. Donc en France, on publie La Compagnie des loups en 1985, après que ce même texte ait été adapté au cinéma en 1984. Parlons un peu plus en détail de The Bloody Chamber, donc du cabinet sanglant. Je suis désolée, je vais souvent le dire en anglais, parce que j'ai l'habitude de l'étudier en anglais, et parce qu'aussi je trouve que ça claque un peu. C'est mon côté snob. Voilà, je rappelle au passage que mes études ont été faites en France et en Angleterre, et que donc j'ai parfois des réflexes extrêmement snob et britanniques. Désolée. Donc, on a plusieurs inspirations que va réécrire Angela Carter dans ce recueil. Elle va d'abord s'inspirer, bien évidemment, de notre ami Perrault et des frères Grimm qui ont suivi, avec Barbe Bleue, celui que nous étudions, mais aussi Le Chaboté, Le Petit Chaperon Rouge, avec 2 ou 3 réécritures du conte, et puis La Belle au Bois Dormant, très très vaguement. Elle s'en inspire un peu, mais son histoire, en fait, va mêler Belle au Bois Dormant et Vampirella, ce que je trouve plutôt cool. Et puis, je vous le disais, Blanche-Neige avec The Snow Child. Donc ça, c'est pour Perrault et Grimm. Elle va ensuite aller vers une autre autrice de contes de fées. On parle de Madame le Prince de Beaumont, que vous connaissez, avec La Belle et la Bête. Pareil, elle le réécrit 2 fois. Il me semble, hein, oui, 2 fois. Et c'est très bien, je vous le conseille. Et puis, on a aussi des inspirations un tout petit peu plus lointaines, puisqu'on a Goethe avec son Roi des Aulnes. Donc vous savez que le poème, c'est The Erl King. Je vous le dis en anglais parce que ça se rapproche beaucoup de la tradition allemande, puisque c'est un conte folklorique allemand qui ensuite a été repris dans un poème de Goethe en 1782 et qui s'appelle donc Le Roi des Aulnes, qui est un conte sur celui qui est censé être le roi des fées, un espèce d'elfe pas très forcément bienfaisant, mais assez intéressant. Alors, désolée pour les bruits de fond que vous allez entendre. Il y a des travaux constamment dans cette résidence, donc il y a un moment, il faut bien que j'enregistre. J'avais déjà enregistré cet épisode il y a 2 jours. Trop de bruit, donc j'espère que là, ce ne sera pas le cas. Et vraiment, désolée. Et enfin, après Goethe et son Roi des Aulnes, elle va aussi s'inspirer, pareil, d'un peu loin, en mêlant Petit Chaperon Rouge et cette tradition britannique qui est celle de Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles. Donc comme vous pouvez le voir, les inspirations sont nombreuses. Il faut savoir qu'Angela Carter parlait couramment français, anglais et allemand. Et donc elle va vraiment aller chercher parmi les rois du conte folklorique, les anglais, les français et les allemands, qui sont très très forts pour ça. Et voilà, on le sait, entre Perrault, Grimm et ensuite toute la littérature britannique qui découle, je pense notamment à James Barry avec Peter Pan, ou encore justement Lewis Carroll et Alice au Pays des Merveilles, mais aussi même Beatrix Potter dans un certain sens. On a vraiment une belle tradition de littérature de jeunesse en Angleterre, et avec un côté un peu différent. Ce côté, c'est parce qu'en fait, on est dans le conte français et dans le conte allemand, le conte traditionnel, on est dans une tradition qui est beaucoup plus merveilleuse, c'est-à-dire qu'on est dans un univers dans lequel il est accepté que nous ne soyons pas dans la réalité et que des pouvoirs magiques existent et ce genre de situation absolument ubuesque. On l'accepte totalement, c'est le principe du merveilleux. Vous avez aussi, à l'opposé, tout ce qui est réalisme, bien évidemment, vous avez le fantastique. Le fantastique, c'est quand vous doutez, est-ce qu'on est dans la réalité ou non. Et vous avez ce que les Anglais maîtrisent absolument, et Angela Carter en est une reine, le réalisme magique. C'est-à-dire que dans un univers réaliste, viennent comme ça intervenir des touches de magie, ça ponctue l'histoire, et on accepte en fait que cela existe dans un monde réel. La Belle et la Bête, c'est un peu du réalisme magique déjà à son époque, et bien là, Carter va le pousser à son paroxysme dans son recueil, ce réalisme magique. Un autre auteur en est très friand, et il est très fort pour ça, c'est Borges. Donc si vous aimez ça, je vous conseille, mais 1000 fois, d'aller lire, et même si vous n'aimez pas ça, c'est tellement bien fait, les nouvelles, et notamment, je pense au recueil Labyrinthe de Borges, c'est excellent. Voilà, c'était la parenthèse. Donc voilà pour Angela Carter, et voilà pour le recueil The Bloody Chamber. On va donc, nous, s'attarder sur cette nouvelle qu'est Le Cabinet Sanglant, qui est donc une réécriture de Barbe Bleue, qui, je crois, est la nouvelle la plus longue. Et promis, je vais arrêter de parler aussi vite parce que je me rends compte que je parle très très vite et je vais me calmer pour le résumé. Donc on est parti pour le résumé, j'espère que ça va vous plaire. Notre histoire commence dans un train. Une jeune fille, qui est la narratrice, regarde son mari avec une certaine appréhension. Tout s'est fait très vite. Elle l'a rencontré alors qu'elle jouait du piano dans un salon. Il est tombé amoureux, l'a demandé en mariage, après une cour très rapide, et puis elle a accepté. Cette jeune fille, elle vient d'un milieu assez pauvre. Sa mère, à elle, venait d'un milieu aisé, mais a tout laissé tomber par amour, pour épouser donc l'homme qu'elle aimait, et aussi parce qu'elle avait un certain sens de l'indépendance et de la défiance. On parle là d'une femme très forte. La nourrice est donc ravie de ce mariage, puisque l'homme est un marquis, qu'il est désigné comme l'un des hommes les plus riches de France, alors que la mère, elle, est plutôt inquiète. Quoi qu'il arrive, ils sont mariés, et donc la jeune femme déménage dans le château de Bretagne du seigneur qu'elle vient d'épouser. Ce château, il faut le savoir, il est séparé de la terre par un bras de mer, et il n'est donc accessible qu'à marée basse. J'ai envie de vous dire, là commencent les embrouilles, mais bon. La jeune femme est donc assise dans le train. Ça, c'est le début de notre nouvelle. Elle est assise et elle songe à un peu ce qui s'est passé à cette cour rapide au cadeau que son mari lui a fait, ce collier de rubis qui enserre son cou. Ce collier de rubis, c'est un héritage, une transmission qu'on se fait dans les milieux aristocratiques. En fait, il faut savoir qu'à la Révolution française, juste après, tous les aristocrates qui n'avaient pas été guillotinés portaient autour de leur cou un ruban rouge en signe de défiance. Eh bien, l'ancêtre du marquis, elle, s'était fait faire un collier, donc vous savez, ces colliers qui serrent le cou, avec des rubis rouges pour symboliser, elle aussi, sa survie. Ce collier s'est transmis de génération en génération et est donc arrivé autour du cou de la jeune femme. Cependant, cette femme ne l'assume pas vraiment. Ils arrivent donc dans le château et c'est dans le château que les soupçons de la jeune femme vis-à-vis de son mari commencent à s'éveiller. Il faut savoir qu'il a été marié 3 fois auparavant et que nul ne sait ce qu'il est advenu de ces femmes. Elle découvre dans sa bibliothèque une collection de livres pornographiques et assez violents qui montrent que son mari a bien un côté sombre. C'est en la voyant un peu perdue face à cette collection que le mari décide de consommer leur mariage dans une nuit qui est assez violente, puisque le mari prend du plaisir en voyant sa jeune épouse embarrassée. Il faut savoir qu'il a mis dans la chambre des bouquets, mais par dizaines d'arômes blancs, et qu'il a fait aussi poser une douzaine de miroirs. La jeune femme, quand elle couche avec lui, se voit donc dans tous ses miroirs, sous toutes ses facettes, et se sent comme un peu prisonnière. Le lendemain matin, il lui annonce qu'il doit partir à New York pour une affaire, tout simplement. Et donc, il lui montre toutes les clés qu'il a en sa possession, en lui disant qu'elle est maîtresse du château, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, vider les comptes, vider les coffres, vendre toute la vaisselle, se parer de tous les bijoux, fouiller tout ce qu'elle veut, sauf utiliser la clé qui mène à un petit cabinet au fond d'un couloir poussiéreux qui vraiment ne donne pas envie et qui est en fait une pièce dans laquelle son mari aime se retrouver, une sorte de garçonnière qui lui fait oublier qu'il a été marié. La jeune femme accepte, voit son mari partir et, mal à l'aise dans ce château, va pour commencer à le visiter. Il faut savoir que c'est une pianiste aguerrie, qu'elle a testé un peu le piano qui est dans la salle de musique du château, mais que celui-ci est désaccordé, et donc son mari, avant de partir, lui fait venir un homme aveugle qui viendra accorder le piano et qui vivra dans le château pour pouvoir réaccorder le piano dès qu'il le besoin se fera sentir, puisqu'à cause de l'air de la mer, le piano tend à se désaccorder assez fréquemment. Donc voilà le mari parti, voilà la jeune femme avec les clés, elle va dans sa salle de musique, bien évidemment, son refuge, mais elle est aussi en quête constante de découverte, et notamment par rapport à ses précédentes femmes. Elle découvre dans son bureau des lettres des 3 femmes que le mari a fréquentées. Les 3 femmes sont les suivantes. Une muse qui a inspiré des poètes et des peintres et qui a été la maîtresse d'un peintre et qui s'est fait peindre nue notamment, tout le monde la connaît comme un modèle de nue en fait. Vous avez une cantatrice qui pareil était très connue et un peu femme fatale, et enfin la dernière est une comtesse roumaine qui s'amuse à dire qu'elle est l'héritière de Dracula, et là encore on est sur une femme fatale. Donc ce sont 3 femmes qui ont des profils drastiquement opposés à celui de la jeune fille, puisque ce sont des femmes avec de l'expérience, qui jouent de leur charme, qui sont plutôt, donc comme je vous l'ai dit, perçues comme des femmes fatales, d'une grande beauté, mais aussi plus âgées, plus matures, et qui viennent vraiment comme ça renvoyer une image que la jeune femme a du mal à comprendre, et elle ne comprend pas, elle, ce qu'elle fait aussi là, puisque elle ne semble pas être en adéquation avec les goûts de son mari, en tout cas les goûts habituels de son mari. Donc elle visite le château, elle essaye de voir un peu tout ce qui s'y trouve, elle demande aussi à ce que toutes les lumières du château soient allumées, parce qu'elle a besoin comme ça que ce château devienne une espèce de phare au loin, dans la mer, et tout ce qui la calme, c'est cette mer, le bruit des vagues, l'extérieur. Bien évidemment, il y a un moment où elle se dit que quand même, elle irait bien voir ce cabinet. Non pas par curiosité, comme les autres versions de Barbe Bleue, mais comme un acte de défiance. Si son mari lui a dit non, alors elle ira. Elle découvre déjà que le couloir dont lui a parlé son mari n'est pas du tout poussiéreux. Bien au contraire, il est plutôt accueillant. Et donc elle se demande pourquoi il lui a dit ça. Enfin, elle se retrouve devant la porte du cabinet et entre sans l'ombre d'une hésitation. Ce qu'elle y trouve est tout simplement horrible. Il y a la cantatrice dans un cercueil de verre, embaumé. Il y a les ossements de ce qui semble être la muse. Et puis enfin, enfermée dans, vous savez, ces sarcophages avec plein de pics, se trouve la comtesse romaine, embrochée, dont le sang est encore frais. Toutes ces femmes, à part celles dont on retrouve les ossements bien sûr, mais les deux femmes sourient. Elle se rend compte alors qu'elle est au milieu de jeux, il y a une roue, d'écartèlement, ce genre de choses, et qu'elle semble être au milieu d'une partie de sadisme, en fait, qui a très mal tourné. Mais elle se rend compte aussi que tout cela est très intentionnel et que si ces femmes se sont livrées au jeu avec plaisir, le mari, lui, avait bien l'intention de les tuer. Elle panique, laisse tomber la clé qui s'imbibe de sang, et quand elle essaie de la nettoyer, après être sortie du cabinet, bien évidemment, la clé ne se nettoie pas. Vient alors la panique. Son mari est à New York, elle peut peut-être essayer de s'enfuir. L'accordeur de piano rentre dans la salle de musique et sent l'odeur du sang. La jeune fille paniquée lui raconte tout ce qu'elle a vu. L'accordeur lui promet de l'aider. Et alors qu'ils discutent tous les deux, elle tourne sa tête vers la fenêtre et elle aperçoit au loin son mari en train de rentrer. Elle se rend compte alors qu'elle a été piégée. Le mari rentre, demande les clés, se rend compte que l'une des clés est tachée de sang, sourit, rit même, et lui dit « Eh bien toi aussi, il faudra mourir ». Et donc il lui prend la clé et il la pose, et c'est une clé en forme de cœur, hein. C'est quand même assez intéressant. Il lui pose la clé sur le front et en fait la forme du cœur de la clé est imprimée sur le front de la jeune fille, c'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais enlever. Il lui dit donc qu'elle va devoir mourir de la manière dont ses ancêtres ne sont pas morts, à savoir décapités. Et que ce collier qui lui enserrait le cou, ce collier fait de rubis rouge sang, était un avertissement quant au sort qu'elle pourrait avoir si elle rompait la confiance de son mari. La jeune femme accepte son sort, va dans sa salle de musique pour se préparer. L'accordeur est là et lui dit qu'il descendra avec elle pour gagner du temps. Ils discutent un peu, elle essaye un peu de trouver une solution. Donc elle dit à son mari « Je m'habille, j'arrive » pour aller vers sa mort. Et quand elle tourne la tête vers la fenêtre, c'est ce qu'elle aperçoit, c'est une femme sur un cheval lancé à toute allure et qui tente de battre la marée pour arriver au château en temps et en heure. Elle avait appelé sa mère un peu plus tôt, avant de découvrir le cabinet, en pleurs, parce qu'elle se sentait mal. Et la mère, alors que la jeune fille lui avait dit « Mais non, en fait, tout va bien », avait décidé de venir parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. C'est donc sa mère qui arrive pour la sauver sur un cheval parce qu'elle n'a pas pu trouver de voiture pour venir à la gare. Et donc la jeune femme se dit qu'il faut garder du temps. Elle finit par descendre avec l'accordeur de piano. Le mari la regarde, décide de les tuer tous les deux. Puis sa mère frappe à la porte. Ils ouvrent tous les deux, l'accordeur et elle, le portail. Et la mère tue la barbe bleue d'une seule balle dans la tête. Le château devient une pension, une école pour jeunes personnes aveugles. Quant à la jeune femme, elle va revivre à Paris avec sa mère et l'accordeur de piano. Ils vivent ensemble, personne ne sait si elle l'épouse, et ça c'est aussi intéressant, et elle vit toute sa vie avec le tatouage de la clé sur son front. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle qui est longue et qui est donc très très riche. Il y a énormément de détails et on va commencer ensemble l'analyse. Donc on va commencer par les personnages, je parlerai d'abord de la barbe bleue, puis de la jeune femme et enfin des personnages qui viennent graviter autour de ces deux personnages. Je pense notamment à la nourrice, brièvement, aux femmes, et puis enfin, aux ex-femmes de barbe bleue, et puis bien évidemment à l'accordeur de piano et à la mère de la jeune femme qui est un personnage essentiel. Ensuite on parlera des thèmes abordés dans la nouvelle, pour finir par les symboles puissants qu'utilise Angela Carter. Symboles qui sont, vous le savez, essentiels à la littérature de contes de fées et à sa réécriture. On est parti. On peut donc désormais parler des personnages. Et on va d'abord commencer par lui. Lui, c'est donc la barbe bleue. Il n'est pas mentionné comme tel dans le conte, c'est le marquis dans cette nouvelle. Il est donc désigné par son statut social. Et c'est ça qui compte le plus. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui a de l'argent et qui le sait et qui l'utilise pour parvenir à ses fins, pour assouvir tous ses désirs les plus cruels. Il est donc perçu par le lecteur et par la narratrice comme monstrueux, cruel et paternaliste. C'est donc l'héritier d'une tradition aristocratique déviante et obsolète et l'incarnation d'un monde qui ne veut pas évoluer. Pourquoi je dis ça? Bien évidemment, le collier de rubis, c'est ce collier qui symbolise la survie de toute une caste de la société suite à la Révolution française. On est donc dans un monde qui est encore grandement marqué par ses valeurs, et l'aristocratie est redevenue un peu à la mode. Il y a une aura de mystère, de pouvoir, de quelque chose d'ancien autour de l'aristocratie, et c'est tout ce qui constitue la nouvelle. Ce marquis, c'est un être qui, par son impunité, illustre un peu ce côté décadent d'une aristocratie qui ne se respecte plus et qui ne respecte pas les valeurs qui lui ont été confiées à sa création. Évidemment, pour tous les aristocrates qui m'écouteraient, ça n'est pas quelque chose de général. Voilà. Mais dans le conte, c'est ce qui se passe. Il y a quand même un jugement un peu... il y a totalement un jugement de caste et... Angela Carter attaque non seulement le paternalisme des hommes de pouvoir, mais aussi derrière ça, toute une société qui met en valeur des personnes qui ne devraient pas avoir le pouvoir. Vous savez que l'aristocratie, c'est un pouvoir qui se transmet par le sang, et c'est pas anodin, alors que pour Angela Carter, c'est pas forcément ça qui fait la noblesse, en fait, de l'homme, comme pour beaucoup de personnes. Et là, la transmission de sang, c'est une transmission forcément cruelle. C'est une transmission d'un sang terni par des pensées complètement horribles et destructrices. Donc lui, il est un peu représenté comme ça, comme cet être. Alors souvent, il l'appelle bébé, il lui parle comme si elle avait 4 ans. On sait que les premiers mots de la Barbe Bleue, ce sont des mots dans lesquels il parle de son harem. Elle fait partie de son harem. C'est la première fois qu'il prend la parole. Jusque-là, il était silencieux pendant la première partie de la nouvelle. Hein. Un bon quart, voire un tiers de la nouvelle. Il est là, il sourit, il regarde, il inquiète. Mais à aucun moment il ne parle, et quand il parle, c'est pour lui dire qu'elle est un objet dans sa collection. Donc on a vraiment toutes les caractéristiques alors d'un homme dans une société patriarcale établi sur, en plus, un régime aristocratique, vous avez compris. Mais en plus, il y a tout le côté collectionneur, sociopathe ou psychopathe, ça dépend. Vous savez que bon, la différence est quand même assez intéressante. C'est en tout cas ce qu'on dirait maintenant, c'est que c'est un pervers narcissique, là encore, on y est. Mon dieu, je ris parce que c'est pas drôle, hein, vous m'avez comprise, mais c'est que on lui emploie un peu à toutes les sauces cette expression, mais là pour le coup c'est vrai qu'en termes de psychologie, de psychanalyse, il coche toutes les cases. C'est donc un homme sadique, hein, mais qu'il revendique, c'est-à-dire que on est dans le sadomasochisme pur à la base dans le jeu, et d'ailleurs la manière dont est présenté le cabinet sanglant, c'est un cabinet qui est un cabinet de jeu, avant d'être un cabinet de torture, et puis qui devient un cabinet de torture, et enfin un cabinet de mort, où la mort s'installe, mais aussi de condamnation à mort, puisque c'est ce cabinet qui va condamner notre héroïne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de facettes, et ce que j'aime avec Angela Carter, c'est que, bien que ce soit un monstre, et qu'il soit condamné comme tel, elle vient nuancer un peu son personnage, avec une scène qui est très dérangeante. Cette scène, ah oui, ce que j'ai oublié de le dire, bien évidemment, c'est un prédateur sexuel aussi. Ça va avec, hein, il coche toutes les cases. Donc dans cette scène, il vient de revenir de New York et il vient de comprendre que, eh bien, comme prévu, comme ce qu'il espérait en fait, elle a cédé sa femme à son désir et elle est allée voir le cabinet sanglant. Et donc il la condamne à mort, mais il y a ce temps, juste entre la condamnation et la prise de conscience, où il est assis sur son lit, la tête dans ses mains, les cheveux défaits, lui qui est toujours tiré à quatre épingles. Il y a dans ses yeux, normalement, c'est ce qu'elle dit, une espèce d'absence, un vide. C'est impossible d'aller voir ce qu'il pense, ce qu'il ressent vraiment. Et là, il y a comme un lâcher-prise comme une révélation dans son regard. Elle le voit comme un être triste, torturé, diminué, enfin un peu lui-même. C'était ma vie que je tenais entre mes mains parmi ses clés et que j'allais dans un instant déposer entre ses doigts parfaitement manucurés. La vision de cette chambre sanglante m'avait prouvé que je ne pouvais attendre nul merci. Pourtant, quand il leva la tête et me dévisagea de ses yeux aveugles, voilés comme s'il ne me reconnaissait pas, je fus prise d'une espèce de pitié terrifiée pour lui, pour cet homme qui vivait en des lieux si étranges et si secrets que, si je l'aimais assez pour l'y suivre, il me faudrait mourir. L'atroce solitude de ce monstre. Le monocle lui était tombé du visage. Sa crinière bouclée était en désordre comme s'il avait passé ses doigts à travers dans sa détresse. Je vis qu'il avait perdu son impassibilité et débordait maintenant d'excitation contenue. La main qu'il tendait pour saisir ses jetons dans son jeu d'amour et de mort tremblait un peu. Le visage qui se tournait vers moi contenait un sombre délire qui me semblait composé, oui, d'une honte effroyable, mais aussi d'une joie terrible et coupable à mesure qu'il s'assurait que j'avais péché. Il avait été aussi lui-même quand ils avaient couché ensemble, elle avait vu la soif, le désir, la cruauté dans les yeux de cet homme qui lui avait fait très peur, hein, dans cette scène de viol conjugal, disons-le clairement. Alors elle y va, elle est partagée, on va voir aussi, parce que il y a toute une mise en scène autour d'elle qui fait que elle est obligée de se poser des questions. Mais lui, là, ce moment-là, elle le regarde et on sent de la pitié, c'est même dit, hein. Elle est peinée pour cet homme qui va la condamner à mort. Parce qu'elle le voit comme il est, un monstre qui ne peut évoluer, qui est condamné à répéter infiniment le même schéma sans jamais y trouver un véritable bonheur. Et elle le voit comme ça, et il n'y a pas de justification du monstre à aucun moment, mais il y a une nuance. On a devant nous un être humain, et c'est là qu'on voit qu'on est dans le réalisme magique et non plus dans le conte. On a un être humain dans toute sa complexité, dans tout ce qu'il a hérité aussi, hein, parce qu'on nous dit que ça fait des siècles qu'on tue des femmes comme ça au château, donc c'est un héritage culturel, cet héritage de titre, cet héritage transmis par le sang aristocratique, c'est aussi celui de la mort en fait, et de cette espèce de frénésie, de torture et de meurtre. Donc il y a quelque chose qu'il subit dans un sens, alors sans en faire une victime, c'est quelqu'un qui est entièrement responsable, et c'est là, pour moi, l'intelligence de l'écriture d'Angela Carter, c'est qu'à aucun moment on se dit « pauvre homme ». On se dit « ah oui, mais alors c'est donc ça, vous savez, parce qu'on a toute cette mouvance qui va naître après, très très encore à la mode dans la littérature young adult, où on vient justifier les actes violents et pervers d'hommes torturés, on vient expliquer que c'est pas de leur faute, ils sont l'héritier de parents défaillants, de structures défaillantes, et que oh les pauvres, eh bien il faut les sauver, il y a une espèce de victimisation, hein. C'est aussi, si on pense, et j'en reparlerai dans la troisième saison, mais c'est ce que fait Vinny quand lui met en scène son mythe de Satan, c'est son personnage féminin, et Loa c'est un personnage qui veut racheter Satan, qui pense pouvoir l'aider parce que c'est une pauvre victime et qu'elle est attirée et qu'il faut le sauver, et en fait il l'entraîne, parce que c'est un monstre, parce que même s'il est torturé, ce qui l'emporte, c'est la monstruosité. Et là, ce que fait Angela Carter, c'est qu'à aucun moment, elle ne nous fait douter de ça. On sait que son personnage est un monstre, mais elle nous montre les failles du monstre. Des failles qui ne sont pas des justifications, à peine des explications, mais qui existent vraiment parce que c'est un être humain qu'on a face à nous. Et en ça, c'est vraiment brillant. Et c'est la même chose avec son personnage féminin. La jeune femme que l'on rencontre dans le train, c'est une jeune femme émerveillée, éblouie, qui a une appréhension sans avoir une vraie peur. C'est quelqu'un qui sent les choses mais qui éteint un peu ce qu'elle sent, qui a envie de vivre la chose, qui va au-devant du danger mais qui y va avec une certaine excitation. Elle est curieuse, elle est courageuse et en même temps assez lâche dans sa manière de voir les choses. Cette jeune femme-là, c'est l'adolescente qui sort de chez elle. Vraiment, hein, on est dans le rite de passage, on va en reparler, mais Elle sort de chez elle et elle va découvrir le monde. Et c'est à travers la figure de son mari complètement horrible hein, et déjà effrayante. Elle le savait très bien, elle est partie en sachant très bien qu'il avait trois femmes qui avaient disparu sans laisser de traces. Enfin, c'est jamais un bon indicateur, hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais en termes de red flag, on se pose là. Et elle y va quand même parce qu'en fait, il y a une idée de transgression. De transgression, bien évidemment, classique, hein, à travers la découverte de l'homme, mais aussi du sexe. Et ça, c'est quelque chose qui va être très prégnant chez cette jeune femme. Et puis, il y a aussi la transgression des valeurs qu'on lui a inculquées à travers la figure maternelle qui l'a poussée à travers ses histoires à être dans l'indépendance, dans l'amour véritable, dans le courage, dans la défiance. Et en fait, cette jeune femme, peut-être que elle a un peu trop souffert de cette image maternelle un peu parfaite, de cette image maternelle forte, et donc elle va aller à l'encontre de cette image en épousant l'héritier d'une tradition désuète et qui va à l'encontre de tout ce que sa mère incarne. Donc cette jeune femme, c'est une jeune femme qui décide de sortir de chez elle, et le fait qu'on commence la nouvelle dans un train n'est pas anodin, on est vraiment dans l'idée d'un voyage, interne et un voyage physique. Et donc elle part, et en partant, elle se découvre. En partant de la maison, elle se permet, en fait, de se découvrir elle pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'on lui inculque, que ce soit du côté de sa mère, comme je l'ai dit, mais aussi du côté de sa nourrice, qui, elle, la pousse dans l'autre voie, vraiment totalement à l'opposé de sa mère. Et donc, au final, elle choisit une voie entre les deux. Elle choisit la voie classique d'épouser quelqu'un avec statut, de l'argent, un homme qui incarne toutes les valeurs paternalistes et aristocratiques que sa mère déteste hein, très clairement et qu'elle a fui. Donc elle va à l'encontre de sa mère, mais elle va aussi à l'encontre de sa nourrice et sur le chemin de sa mère, en choisissant un homme qui incarne très clairement, dès le début, elle le sait, le danger. Je le vis qui m'observait dans les miroirs dorés, de l'œil appréciateur du connaisseur examinant un pur sang, voire de la ménagère au marché, les pièces de viande à l'étal. Je ne lui avais jamais vu, ou du moins n'y avais pas pris garde, ce regard auparavant, dans sa pure avarice charnelle, et qu'amplifiait encore étrangement le monocle logé dans son orbite gauche. Quand je vis qu'il me regardait avec concupiscence, je baissai les yeux, mais en détournant de lui mon regard, j'aperçus mon propre reflet dans la glace. Et je me vis, soudain, tel qu'il me voyait. Mon pâle visage, cette manière qu'avaient les muscles de mon cou de saillir comme un fin treillis. Je vis combien ce cruel collier me saillait, et pour la première fois de mon existence, innocente et confinée, je perçus en moi-même des possibilités de dépravation qui me coupèrent le souffle. Le lendemain, nous étions mariés. Ça, c'est cette femme, et c'est là encore la beauté d'Angela Carter, c'est que son personnage féminin n'est pas un personnage parfait, ça n'est pas une victime, mais ça n'est pas en même temps quelqu'un de foncièrement courageux, elle a des grands moments de lâcheté. C'est quelqu'un qui apprend à être. C'est une jeune femme qui, sortie du giron familial, vient découvrir qui elle est face à une situation absolument inhumaine. Donc, c'est quelqu'un qui va taire son intuition, beaucoup. Parce qu'elle ne sait pas encore comment la canaliser, tout simplement, parce qu'elle ne sait pas encore comment l'écouter. Donc elle tait beaucoup son intuition, et peu à peu, on voit que son courage grandit au fur et à mesure où elle s'écoute, en fait. Donc elle sait qu'elle doit aller dans le cabinet, elle sait que c'est un test, elle le sait pertinemment. Contrairement aux autres jeunes femmes qui y allaient par curiosité pure, elle sait que là, elle y va parce que son mari l'a guidée pour qu'elle y aille. Et donc elle y va quand même. C'est une espèce de défiance, de dire à son mari « Je sais ce que tu attends de moi, je sais que je devrais pas y aller, je sais que ce que je vais découvrir là-dedans va être horrible, mais j'y vais quand même. Regarde-moi faire. » C'est une jeune femme qui pense que la seule issue possible à sa vie monotone chez sa mère, c'est donc ce mariage. Elle oublie en fait que l'issue, en fait la plus, enrichissante pour elle, c'est en fait la musique. Et c'est rappelé à de nombreuses reprises, hein, on a cette idée que, bien évidemment, c'est parce qu'elle était une excellente pianiste que le marquis l'a repérée, mais c'est aussi parce qu'elle est une excellente pianiste qu'il va faire venir l'accordeur, que cet accordeur va aussi l'aider, que ça va être une fenêtre sur un monde extérieur qui va lui permettre de relativiser ce qui se passe dans le château et de prendre conscience des dangers et d'agir. C'est quelqu'un qui va la soutenir. On va en parler de cet accordeur de piano. Pareil, très bien fait ce personnage masculin. Là encore, Carter brille par sa nuance, par son intelligence et sa finesse. Mais en tout cas, cette jeune femme se développe et elle s'affirme à travers la musique. Et c'est pas anodin qu'à la fin, elle finisse comme musicienne. Et là où elle se réfugie, c'est toujours dans la salle de musique. Parce que c'est ça, en fait, sa valeur. C'est quelque chose qu'elle n'a hérité de personne. Ça n'est pas un cadeau de son mari. Ça n'est pas un cadeau de sa mère, c'est en elle, c'est son talent propre. Et Angela Carter nous indique que donc cette jeune femme, pour exister, pour se réaliser, doit puiser en elle ce qui fait son unicité. Et là, en l'occurrence, c'est la musique. On a donc un personnage féminin qui, comme je vous l'ai dit, apprend à se connaître, et ça passe aussi à travers la relation qu'elle entretient avec le sexe, bien évidemment. Il y a une espèce d'attente, hein, de curiosité envers cette nuit conjugale. Voilà, cette nuit conjugale qu'elle attend, qu'elle craint en même temps, dont elle ne sait que faire. Et puis il y a toute une mise en scène, hein, que son mari exige, qui est d'abord les préliminaires. En fait, c'est quoi ? C'est la découverte des livres pornographiques dans la bibliothèque. Il lui montre en fait ce qu'il attend d'elle, hein. Et elle craint cela, bien évidemment, parce qu'elle n'a aucune expérience, et quand elle voit ça, elle se dit « Mais attends, c'est ça qu'on attend de moi, horrible !» Et en même temps, il y a une légère fascination, parce que « Oh waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Donc c'est une jeune femme qui assume ses désirs sexuels, qui en a vraiment, et c'est bien aussi de ne pas en avoir fait une espèce de prude comme ça, qui rejette la sexualité, bien évidemment que non, c'est une adolescente normale, qui évidemment a du désir, a des envies, Et donc, c'est vrai qu'elle est plongée tout de suite dans un espèce de Sodome et Gomorre, comme ça, où sa sexualité, son image de la sexualité, est confrontée à une réalité beaucoup plus cruelle et beaucoup plus violente que ce à quoi elle s'attendait. Donc, elle attend sa nuit de noces, elle l'attend avec une certaine appréhension, et en même temps, ça l'intrigue. Et donc, elle y va. Et en même temps, cette nuit de noces, une fois qu'il l'a confrontée donc à la pornographie de ses livres, c'est ses livres pour s'endormir, j'imagine, chacun son délire. Il l'a fait vêtir d'une robe blanche immaculée qu'il lui avait déjà fait porter à l'opéra, comme ça, comme on habille une poupée. Et donc il lui met cette robe blanche qui symbolise la pureté. Je vous rappelle que c'est la seule de ces femmes qui est vierge. Les trois autres étaient des femmes avec une certaine expérience et connues pour cela. Il lui met cette robe blanche et bien évidemment le collier rouge, le collier de rubis, qui vient l'inscrire dans un panthéon féminin familial. Je vous passe le côté freudien du truc, hein, où clairement, ce monsieur cherche sa maman, mais on va pas revenir là-dessus. Et donc il y a le contraste entre la robe blanche pure et ce collier de rubis qui vient symboliser un peu, et le sang virginal dont il va parler, hein. Il va lui parler de ce sang virginal après, et en même temps bien évidemment sa mort certaine. Donc il couche avec, et en même temps, il la condamne à mort. Voilà, il préfigure sa mort en couchant avec elle. C'est sympa pour commencer sa vie sexuelle, c'est top, vraiment. Et puis, bien évidemment, c'est une scène avec une énorme violence, qui n'est pas forcément décrite comme telle, mais qu'on ressent énormément, donc il y a des descriptions où on sent qu'elle est prisonnière, en fait, de cet homme, et que ce qu'elle avait en tête n'est pas du tout ce qui est en train de se passer et qu'on est en train de se servir d'elle et de se servir tout court, de prendre ce qui l'intéresse. Elle devient un objet, une poupée, je vous l'ai dit, et cette objectification, c'est là qu'on bascule dans le viol conjugal, en fait. C'est-à-dire que à aucun moment il ne prend en considération ses désirs à elle, à aucun moment il cherche à voir si elle est à l'aise ou non, elle est terriblement mal à l'aise, elle n'est pas bien, après elle se sent très très mal, elle craint un peu un retour à la chambre nuptiale, et en plus il lui impose cette espèce de vision horrible en mettant 12 miroirs dans la chambre, on reparlera des miroirs, mais bon voilà, donc on est vraiment dans cette scène-là, Et là encore, ce personnage féminin, c'est un personnage qui ne sait pas quoi penser de ce qui vient se passer, tout simplement parce que elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle le ressent en elle, mais il n'y a personne pour mettre des mots dessus. Et elle appelle sa mère en pleurs. Et elle lui dit non, en fait, tout va bien, et elle raccroche. Et là, on voit que cette réaction, c'est une réaction évidemment d'une femme qui s'est faite violer. Et en fait, à aucun moment ça n'est dit. Et là encore, l'intelligence d'Angela Carter, c'est de dire à son lecteur, vois ce qu'elle ressent. Cette absence de mots sur ce qu'elle a vécu, cette absence d'explication sur ce qu'elle a vécu. Elle sait que ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose qu'elle aurait dû subir, mais elle n'en est pas si sûre que ça parce qu'elle sait pas comment ça se passe. Donc, est-ce qu'elle est condamnée à cet avenir-là? Ou bien, est-ce qu'elle peut faire quelque chose contre? Et peu à peu, l'idée surgit de « mais c'est pas normal, et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir contrer ce mari cruel et abusif ?» Et s'ensuit le reste de l'histoire. Donc là encore, un personnage féminin d'une richesse incroyable, d'une finesse, d'une intelligence. Vraiment, Angela Carter est incroyable, je vais peut-être le dire 1000 fois dans cet épisode, et ça ne sera pas assez. Il y a une grande, grande intelligence dans ce texte. Je vais pas repasser sur les personnages féminins parce qu'on en a déjà parlé, je vous ai déjà parlé de la mère, je vous ai déjà parlé de la nourrice, des autres femmes, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mais par contre, j'aimerais qu'on parle de l'accordeur et des domestiques. Donc par contre, cet accordeur de piano qui a, pour moi, un rôle essentiel et qui vient un peu cristalliser ce qu'on perçoit sur le personnage féminin. Voilà. Déjà, c'est un guide. C'est quelqu'un qui est là pour la soutenir. Il se positionne comme tel. Quand il l'accompagne en bas pour qu'elle aille retrouver la barbe bleue afin qu'il la tue, à aucun moment il ne se propose de la sauver. Il est là pour l'accompagner, pour que quitte à ce qu'elle meure, elle ne meure pas seule et qu'elle sente que quelqu'un était là pour elle, qui l'a aimée et qui avait ses meilleurs intérêts à cœur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. C'est-à-dire que le personnage masculin qui est là, ce qu'on appelle love interest, ça n'est pas vraiment un. À aucun moment, on nous parle de véritable amour, de coup de foudre. Elle l'aime parce qu'ils ont connu le même traumatisme. Il y a une idée d'avoir partagé quelque chose et de cet homme qui, à aucun moment, n'essaiera de prendre le dessus sur elle. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle va plutôt valoriser. On ne nous dit pas du tout qu'ils se marient à la fin du texte. On sait qu'ils vivent ensemble, mais il n'est pas question de mariage. Et là encore, il y a une espèce de travail sur ces notions sociétales, culturelles, qu'incarne hein, très clairement le mariage. Eh bien, là, vraiment, cet homme-là, on sort complètement de la vision très paternaliste et traditionnelle qu'on peut avoir pour une jeune femme de cet âge et à une époque qui n'est pas précisée, mais on est fin 19e, début 20e. Voilà, enfin, il y a vraiment une idée de vouloir extirper un peu cette jeune femme de cette société-là. Et en fait, elle le fait toute seule, en choisissant comme partenaire de vie, comme second partenaire de vie, cette homme qui est à l'opposé de celui qu'elle avait choisi en premier lieu et qu'elle avait choisi pas vraiment en fait, qu'elle avait accepté de suivre parce que c'était lui qui l'avait choisi. Donc là on y a aussi une idée qu'elle est beaucoup plus active, proactive même dans le choix de son partenaire de vie alors que ça n'était pas forcément le cas au début. Lui c'est donc un guide, c'est un soutien, il ne la sauve pas et ce qui est très très intéressant c'est que petit 1, il est aveugle, et pendant tout le texte, il se repose non pas sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il sent. Il est très intuitif, il est dans la perception, et là où je vous avais dit qu'elle a tendance un peu à taire cette intuition, il va l'aider à valider ses sentiments, à lui montrer que sa manière de faire peut aussi s'appliquer à elle, et qu'elle en a toutes les capacités. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'il va libérer quelque chose en elle sans être celui qui lui montre consciemment. C'est pas quelque chose qu'il fait à son attention, c'est ce qu'il est Et ça permet à cette jeune femme de voir un autre modèle et de prendre en considération le fait qu'elle est capable de reproduire ce qu'elle voit là, puisqu'en fait elle l'a en elle. Et que on sortira la reproduction, mais plutôt dans quelque chose de vraiment actif, quand elle prendra conscience de sa valeur et de tout ce dont elle est capable, en dehors de schémas classiques. C'est aussi quelqu'un qui accorde le piano, ça n'est pas un musicien, et là encore, cette idée-là vient vraiment renforcer l'aspect soutien de ce personnage. Il n'est pas musicien, il ne va pas exceller dans le même art qu'elle, il vient faire en sorte que l'outil de musique qu'elle utilise pour exprimer ses sentiments et son talent soit à la hauteur de ses sentiments et de son talent. C'est tout. C'est quelqu'un qui s'efface face à elle, non pas parce qu'il faut s'effacer, mais juste parce que elle a le talent de musicienne, il a le talent d'accordeur qui en est un. Et donc ils se complètent. Et c'est en ça que c'est très bien fait. C'est que vraiment, il ne prend pas le pas sur elle, il y a une vraie idée d'entraide, de soutien, d'élévation mutuelle et réciproque. Et c'est donc un personnage masculin très intéressant. Et puis enfin, on a les domestiques qui sont complices par défaut. C'est comme ça qu'elle le voit, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Elle sait bien qu'ils ferment tous les yeux sur les actes qui ont lieu dans le château, sur l'attitude absolument cruelle et barbare de leur maître, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est... Ils font partie d'une même culture, cette culture bretonne qui est censée les lier tous ensemble, hein. On les connaît, les Bretons. C'était facile, hein. Je suis basque, c'est la même. Bref, on les connaît. Mais il y a cette idée aussi, tout simplement, que ce sont des domestiques face à un maître et que, ils n'ont rien à dire, quoi. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de capacité à agir. Et en plus, on leur a appris que s'ils tenaient à leur vie, eh bien, il fallait juste apprendre à se taire. Et on ne peut pas leur en vouloir. Voilà. On enchaîne sur les thématiques, il y en a pas mal, mais on va se concentrer sur deux thématiques principales qui sont liées. Pour moi, ce texte, c'est donc le texte du rite de passage, de l'expérience liminale, et j'ai lu un article extrêmement intéressant sur le sujet que je listerai en barre d'infos, c'est un article en anglais si vous le souhaitez. Donc ce sera soit dans la description de l'épisode pour ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, pour ceux qui écoutent sur YouTube dans la barre d'infos, et voilà, vous aurez en tout cas les liens. C'est un article fascinant et passionnant sur le sujet. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une expérience liminale, c'est ce qui est donc à la limite, c'est ce qui est l'entre-deux, c'est cette espèce de zone un peu floue, qui n'est jamais ou toute noire ou toute blanche. Et on a vraiment l'idée d'une zone comme ça d'entre-deux. C'est vraiment ça. Et cette expérience liminale, c'est une expérience qui est particulièrement importante dans le rite de passage. Le rite de passage, c'est là encore l'idée que pour pouvoir devenir adulte, un adolescent ou une adolescente a besoin de franchir certaines étapes, de faire une sorte de voyage à la fois physique et spirituel. Et c'est pour ça que tous les contes de fées commencent quand on a un ado ou une ado qui sort de la maison pour aller trouver son chemin. En général, ils sont dans la forêt, hein, c'est le lieu liminal qui permet un peu comme ça, cet entre-deux, entre le connu et l'inconnu, qui permet voilà, d'explorer un peu tout ce qu'on a exploré pour devenir adulte. Là, on est dans un train.
Je me souviens être restée éveillée dans le wagon-lit cette nuit-là, en proie à de tendres et délicieux transports d'impatience, ma joue brûlante pressant la blancheur impeccable de l'oreiller et les coups de boutoir de mon cœur imitant ceux des grands pistons obstinés du train qui m'emportaient à travers la nuit, loin de Paris, loin de mon enfance, loin de la blanche quiétude confinée de l'appartement maternel, vers les contrées énigmatiques de la vie conjugale.
C'est une symbolique qui est très intéressante, puisqu'on est évidemment dans cet endroit qui est à la fois la maison et qui ne l'est pas. On est vraiment, là encore, dans une expérience liminale totale, hein, au début de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on part de la maison pour arriver à un lieu qui n'est pas la maison, mais on n'est ni à la maison ni dans ce lieu qui n'est pas la maison. Et en même temps, on est toujours un peu à la maison et on est déjà un peu dans ce lieu qui n'est pas la maison. Et ça, c'est Dorme d'Ormesson qui dit ça dans Un amour pour soi. J'étais dans un train dans lequel j'étais... Je n'étais pas tout à fait arrivée, mais j'étais déjà partie. C'est cette idée vraiment que le train, c'est, comme tout moyen de locomotion, c'est l'idée que on porte en soi le départ et l'arrivée. Voilà. Et donc, cette jeune femme, elle est dans ce train, et elle est à la fois adulte, et à la fois enfant. Et elle porte cela en elle, et ensuite, elle arrive au château. Et ce château, c'est là encore, on est dans l'expérience liminale, puisque ce château est séparé de la terre par un bras de mer, et qu'il y a une idée comme ça de marée, hein. Donc on imagine très bien quand Angela Carter voyait comme ça en Bretagne un château mystérieux dans lequel se passent des choses étranges auxquelles on ne peut accéder qu'à marée basse. Bon, clairement, on a tous le Mont-Saint-Michel en tête. Donc il y a vraiment cette idée comme ça de lieu un peu magique qui n'appartient ni à la mer ni à la terre, et donc qui est un entre-deux en lui-même. Et son château, ah son château, la solitude féerique du lieu, avec ses tourelles bleutées de brume, sa cour, sa herse, son château blotti dans les girons même de la mer, et le miaulement des oiseaux marins autour de ses combles, les croisées ouvrant sur les étendues évanescentes, vertes et mauves, de l'océan, coupées du continent par la marée la moitié du jour. Ce château, dont l'élément n'était ni la terre ni l'eau, cet endroit mystérieux, amphibie niant la matérialité de la terre et des vagues, avec la mélancolie d'une sirène juchée sur son rocher, dans l'attente interminable d'un amant qui s'est noyé au loin, voilà fort longtemps. Ce drôle d'endroit triste et charmant, comme une sirène. Et cet entre-deux, elle va le transformer avec l'idée de lumière, hein, puisque elle le rattache un peu comme ça... Et au château de Conte de Fées, elle le dit souvent, c'est son château de Conte de Fées, avec la lumière, elle imagine toutes ces lumières qui brillent comme ça depuis la mer et qu'on voit depuis la terre. Et en même temps, justement, on le voit depuis la terre, donc on rattache à la terre à travers la lumière. Donc ça, c'est le premier élément de ce château qui est un peu le lieu de l'expérience liminale. Et puis il y a la mer qui l'entoure et qui apaise, cette mer qui, bien évidemment, est symbole de changement. Mais l'eau, on le dit, c'est aussi un motif émotionnel, hein, c'est ce qui traduit les émotions en général. Et puis c'est aussi, bien évidemment, l'eau du liquide amniotique, enfin bref. Je vais vous épargner ce genre de lecture extrêmement psychanalytique, mais c'est censé être quelque chose qui rassure parce que c'est nous sommes nés dans l'eau, nous sommes constitués d'eau, et nous avons grandi, nous avons été formés, tout notre corps, notre cerveau, dans l'eau. Et nous sommes nés dans cette espèce de d'eau qui se déverse, hein, avec la poche des eaux qui se perce, enfin voilà, et tout le liquide amniotique qui nous entoure. Donc l'eau, c'est toujours censé être quelque chose de rassurant parce que c'est l'eau primitive, en fait. Voilà. Et elle l'associe un peu à ça, hein, cette eau qu'elle entend comme ça. Et en même temps, c'est l'eau qui la sépare du monde, c'est l'eau dangereuse parce que cette mer qui, quand elle est à marée haute, ne permet pas de se rattacher à la terre, c'est celle qui court après sa mère, qui essaye d'échapper à la marée pour pouvoir sauver sa fille aussi. C'est celle qui ne la coupe pas de son mari quand elle aurait souhaité qu'il ne puisse plus accéder au château qu'elle puisse trouver une solution. Enfin voilà, il y a toute cette idée de cette mère qui est à la fois bénéfique et maléfique, et qui rappelle en fait cette expérience liminale, cette idée de rite de passage. Donc cette jeune femme, c'est une jeune femme qui bien évidemment se cherche et qui va vraiment se trouver dans un autre passage, le passage qui emmène au cabinet sanglant, en traversant le cabinet sanglant, en suivant ces étapes un peu comme ça symboliques, et en ouvrant la porte, elle ouvre la porte à l'âge adulte.
Puisque j'avais découvert quelques traces de son cœur dans un dossier intitulé « Personnel », ici, peut-être, dans son intimité souterraine, j'allais découvrir un peu de son âme. Ce fut la conscience de la possibilité d'une telle découverte, et de sa possible étrangeté, qui me fit un instant demeurer immobile, avant de céder à la témérité de mon innocence, déjà subtilement entachée, pour faire jouer la clé dans la serrure et peser contre la porte qui s'ouvrit dans un lent grincement.
C'est la réalisation. Cette jeune femme, et ça c'est très bien dit dans l'article de Renfro, cette jeune femme, elle ne naît pas femme à travers l'expérience sexuelle, non. Elle naît femme à travers son expérience de défiance, c'est-à-dire celle où elle ouvre la porte du cabinet sanglant. Et c'est très intéressant parce qu'on sort des carcans habituels où la jeune femme naît à travers sa relation avec l'homme, hein, pour être, alors c'est toujours à travers l'homme parce qu'il y a une idée de défiance, mais pour être le moment où ce n'est pas quelque chose qu'elle subit, mais plutôt quelque chose qu'elle provoque. Et elle devient donc un peu plus responsable de son sort. Donc voilà, et donc ça nous amène et bien évidemment à l'idée de sexualité, de corporalité, de sensualité. Le rapport au corps, et on va en parler aussi avec les miroirs, le rapport au corps, c'est l'idée que le corps est une limite, d'accord ? Je pense aux travaux d'une amie, Dominique Arlini-Versini, qui a fait sa thèse sur le corps frontière chez la femme. Et cette idée de corps frontière, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu ici, c'est que ce corps, elle n'en parle pas tellement, il ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Et c'est bien symbolisé par ce collier, hein, qui est comme un collier qu'on mettait au bagnard, d'accord ? C'est un symbole d'emprisonnement. Le corps appartient à son mari, c'est le corps sensuel, c'est le corps sexuel, c'est la pornographie, le désir et aussi, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, le viol.
Il me fit mettre mon collier, le bijou de famille légué par une femme qui avait échappé au couperet. Les doigts tremblants, je le fixai à mon cou. Il était froid comme la glace et me transit. Il tordit ma chevelure en une corde qu'il souleva de mes épaules afin de pouvoir mieux embrasser le creux duveteux de mon cou sous mes oreilles. Cela me fit frissonner. Et il baisa aussi ses rubis éclatants. Il les baisa avant de baiser ma bouche. Transporté, il déclama, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. Une dizaine d'époux empalèrent une dizaine de jeunes mariés, tandis que les mouettes criardes se balançaient sur d'invisibles trapèzes dans l'air vide du dehors.
Donc cette sexualité, elle passe par l'envie de découverte avant d'être ternie par la violence qu'on lui impose, et on n'en parlera plus par la suite. Vraiment plus. Et c'est une thématique qui est assez intéressante parce que c'est quelque chose qui est dit à demi-mot. Donc jusque-là, on est dans le conte et tout, donc c'était pas forcément dit vraiment, mais là, dans cette nouvelle qui se destine beaucoup plus à un public adulte, The Blood Chamber, clairement adulte. Je ne ferais pas dire ça à des ados. Il y en a d'autres qui s'y prêtent en tant que recueil, mais celle-ci, non. Il y a vraiment une idée de dépossession du corps que la jeune femme doit regagner au fur et à mesure, et cette dépossession passe bien évidemment par la sexualité. Sexualité, je vous le redis, imposée. Donc voilà, ça c'est un peu pour les thématiques, on est vraiment dans l'idée d'expérience, c'est ce qui résume le tout, et dans l'idée de découverte, et une découverte qui n'est pas toujours évidente, parce qu'elle est souvent marquée par l'imposition de certaines choses, par des circonstances qui ne sont pas forcément très positives et qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Donc voilà. Maintenant, on va juste parler des symboles et je parlerai de trois symboles. Donc on va commencer par notre premier symbole qui est le miroir. Le miroir, c'est un symbole classique du conte de fées, vous le connaissez. Si je vous dis miroir, conte de fées, tout le monde crie Blanche-Neige, enfin ne criez pas, mais vous avez compris. Donc Blanche-Neige, bien évidemment, dans lequel le miroir est à la fois symbole de vérité, d'une vérité crue et dérangeante, mais aussi de beauté, bien évidemment. Et enfin, et on va y venir, d'omniscience. Vous allez comprendre. Là, dans notre nouvelle, on a donc une douzaine de miroirs qui sont dans la chambre. Ces miroirs, ça permet bien évidemment d'objectifier la femme qui devient une espèce de peinture, qui devient un objet qu'on peut observer comme ça sous toutes les coutures, qui ne peut plus se cacher du regard de son mari et qui est un peu obligée de subir ce reflet comme ça qu'elle aperçoit un peu partout et dont elle n'a pas très envie. Donc ça, c'est la première chose. On a donc cette idée de mise en scène, hein, de tableau, qui vient renforcer l'objectification. Et puis, il y a cette idée d'omniscience, elle est là, c'est-à-dire qu'avec le miroir dans Blanche-Neige, c'est le miroir qui sait où est la jeune femme, qui sait qu'elle existe encore. En fait, pas forcément où elle est, si, elle lui dit où elle est d'ailleurs, mais qui sait qu'elle existe encore, qu'elle vit encore. Quand le bûcheron ramène le cœur d'une biche en faisant passer le cœur pour celui de Blanche-Neige, eh bien, la reine pense qu'elle est morte, et le miroir lui affirme le contraire, parce que le miroir sait tout. Eh bien là, les 12 miroirs, alors je ne reviendrai même pas sur la symbolique du chiffre 12, on n'a pas le temps et ça se représentera à nous, mais tous ces miroirs qui sont placés autour d'elle, parce qu'elle dit au début une dizaine, hein. Après le chiffre 12 est précisé, ce sont une manière pour le mari de lui dire « je te vois ». « Je te vois et tu ne peux pas échapper à mon regard, quoi qu'il arrive, je te vois ».
Et entourée d'une telle quantité de miroirs, des miroirs sur tous les murs, dans des cadres majestueux, aux dorures contournées, reflétant plus d'arômes que je n'en avais vu de toute mon existence. Il en avait empli la pièce pour accueillir l'épousée, la jeune épousée. La jeune épousée était devenue cette multitude de filles que j'apercevais dans les miroirs, identiques, dans leur tailleur bleu marine, très chic. « Voyez, dit-il, désignant d'un grand geste ces élégantes jeunes femmes, je me suis offert un harem entier. »
Et donc elle ne peut rien faire de caché. Et à partir de ce moment-là, on sait tout de suite que lorsqu'il lui donne les clés dans cette même chambre, il lui dit « Je te verrai transgresser l'ordre que je t'ai donné, nécessairement. » Donc ça, ce miroir, pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est cette idée de deuil, comme ça... J'allais dire œil de Moscou, mais en même temps, on va peut-être éviter en ce moment. Mais cette idée d'œil qui voit tout. C'est un peu le Sauron de la nouvelle d'Angela Carter, quoi. Donc voilà, c'est référence. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième motif, je ne vais pas revenir sur les bijoux, hein, avec ce collier, on en a déjà assez parlé. Le deuxième motif, c'est celui des fleurs, et pas n'importe quelle fleur, ce sont des arômes. Je ne sais pas si vous voyez tous que c'est un arôme, sinon je vous encourage à aller voir, c'est cette forme un peu en forme de cône blanche. Alors elle a plusieurs couleurs, mais on la voit souvent blanche. On appelle ça les lys des vallées, il me semble, les lys des jardins. C'est une idée de pureté, hein. Voilà. C'est une fleur qu'on offre en cas de dilemme, et c'est cette fleur qui vient peupler toute la chambre, bien évidemment, hein, le mari en a mis dans toute la chambre, mais avant cela, la jeune femme compare son mari à un arôme. Elle dit qu'il lui fait penser à un arôme.
Pas encore. Plus tard, l'attente est la plus grande part du plaisir, mon petit amour. Et je me mis à frémir, comme un pur sang avant la course, mais aussi avec une manière de peur, car j'éprouvais à la fois un bizarre émoi personnel à l'idée de l'amour, en même temps qu'une répugnance que je ne pouvais maîtriser à l'encontre de sa lourde chair blanche, qui avait trop en commun avec les brassées d'arômes qui remplissaient ma chambre dans de grands bocaux de verre. Ces arômes de pompes funèbres dont le lourd pollen vous poudre les doigts, comme si vous les aviez plongés dans le curcuma. Ces fleurs qui sont pour moi à jamais associées avec lui, ces fleurs blanches et qui tâchent.
Et donc l'un comme l'autre, sans qu'elle lui ait dit, se réunissent en fait autour de cette fleur, qui est donc la fleur du dilemme, qui est aussi appelé, en fait, arôme, ça vient du grec aron, qui veut dire barbe de l'épi. Voilà. C'est aussi son autre nom, kala, qui vient de kalos, beau en grec. Donc on a vraiment l'idée de la beauté, mais aussi de la barbe, et donc on retrouve et la vision de la jeune femme, qui voit son mari comme un arôme, et la vision du mari, qui voit sa femme comme quelque chose de beau. Il y a plusieurs mythes qui entourent cette fleur. Le premier, c'est qu'on dit que ce sont des gouttes de lait maternel que la déesse Héra aurait laissé tomber de son sein en nourrissant son fils, et cela aurait fait pousser cette fleur. D'autres disent que dans la mythologie romaine, que Vénus jalousait la beauté de la fleur. Et on sait que quand Vénus jalouse quelque chose, en général, on l'a vu avec Amour et Psyché, ça ne donne rien de bon. Je trouve ces traditions très intéressantes parce que ce sont des traditions liées à la femme, à la beauté, à la maternité, à tout ce qui est censé faire les qualités d'une femme dans une société patriarcale. Mais on dit aussi dans la mythologie chrétienne que c'est traditionnellement la fleur qui aurait poussé au pied de la croix du Christ et que les taches sur les feuilles, ce sont les taches de sang du Christ. Donc on associe cette fleur au martyr, au sacrifice et au sang. Et je pense bien évidemment à la couronne d'épines autour de la tête du Christ qui, pour moi, me fait clairement penser au collier. Ça s'appelle en anglais un choker. Choker, en anglais, ça veut dire ce qui étrangle. Donc il y a vraiment une idée comme ça de quelque chose qui est douloureux, mais qui est aussi un ornement, et qui vient symboliser le martyr. C'est la fleur traditionnelle du mariage, parce qu'elle est aussi symbole de confiance et de pureté. Donc quand le mari offre des arômes à sa femme, il vient bien évidemment faire une petite blague, comme ça, en lui disant « voilà, symbole de notre mariage et de notre confiance ». Mais bien évidemment, ça n'est pas forcément ce que cela veut dire. Il la sacrifie comme le Christ a été sacrifié. Il vient en faire une martyre. Le Christ, c'est le symbole de l'innocence, de la pureté, hein, voilà. Et c'est ce qu'elle incarne elle aussi avec cette robe blanche qui vient là encore faire écho à toute cette tradition autour du Christ et du linceul. Il y a vraiment toute cette idée comme ça, à travers le motif de la robe, de martyr et de sacrifice, ce qui est renforcé par l'idée que dans le texte, la jeune femme est aussi souvent comparée à un autre personnage biblique, Ève. Là encore, je vous renvoie vers l'article dont je vous ai parlé concernant l'expérience liminale. Mais c'est vraiment cette idée de sacrifice alors et d'accusation à tort. Parce que quand le Christ a été sacrifié sur la croix, c'était une espèce de condamnation injuste. Quand Ève a soi-disant provoqué la chute du paradis, bien évidemment, on lui a fait porter le chapeau de manière injuste. Alors ça c'est une lecture a posteriori, alors que la lecture sur le Christ est une lecture classique, hein, biblique. Ce sont les deux pendants de cette mythologie chrétienne qui font de notre personnage principal une victime, mais aussi une martyre, et qui viennent faire aussi d'elle une héroïne un peu déchue comme ça, comme Ève. Et au final, elle transcende un peu toutes ces idées, et elle renaît dans un certain sens, hein, si on continue sur la mythologie chrétienne, elle renaît à travers cette expérience, elle se trouve véritablement, et elle s'affirme en dehors de l'identité de sa mère, qui la sauve, certes, mais dont elle n'emprunte pas forcément le chemin, parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit l'amour qui compte le plus dans sa vie, contrairement à sa mère. Et en même temps, elle s'émancipe aussi des carcans sociétaux qui étaient incarnés par sa nourrice, et elle devient autre chose, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle sort de tout ça, elle sort de toutes ces symboliques qu'on lui impose, elle sort de cette expérience, comment dire, liminale, du rite de passage, du rite initiatique, elle sort de tout ça pour s'incarner pleinement et pour ne plus être la victime ou la martyre de quoi que ce soit, mais juste être elle-même, en fait. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je dis, mais voilà. Donc on est face à un conte, pour conclure, parce que c'était assez long, on est face à un conte qui vient vraiment déranger tout ce qu'on avait vu jusqu'alors, qui n'est pas forcément révolutionnaire, les thématiques sont là, mais qui vient dire ce qui n'était pas dit, qui vient montrer ce qui n'était que suggérer. Et à travers cela, à travers cette réécriture en réalisme magique de Angela Carter, on a vraiment une cristallisation des thématiques du conte qui jusque-là pouvait être évitée en fait et pouvait être regardée un peu avec une certaine distance. Là, Angela Carter vient nous dire voilà de quoi parle l'histoire et vous n'avez d'autre solution que de voir en face ce qu'il se passe dans ce texte. Ce n'est pas un conte pour amuser les enfants, c'est le conte, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est abusée. Et voilà. Et on n'essaye pas aussi de dire que la morale, c'est que la jeune femme est trop curieuse ou la morale politique qu'on a eue jusqu'alors, c'est de dire que il y a des monstres et qu'il faut se battre contre ces monstres et non les excuser, en fait. Et c'est à ça aussi que sert toute la nuance autour des deux personnages. Donc voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long et j'espère que ça vous a plu. Je ne pouvais pas faire un épisode court sur ce texte. Le prochain épisode sera plus court et chose promise, chose due, il sera sur Anatole France et sa vision du conte. Donc ce sera un épisode plus court, très clairement, pour vous ménager. Mais bon, là on est en vacances, enfin il y en a qui sont pas en vacances, mais on est dans cette période estivale où parfois on a un peu plus le temps de faire certaines choses, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.